following is a previously broadcast program.
Et bienvenue à CKUT 90.3 FM. Vous écoutez comme toujours le jeudi matin, le lendemain de la veille, avec moi, Tamara Filievitch et Raymond Vitesse sur la chronique BD. Bon matin, Raymond, comment ça va?
Bonjour, Tamara. Très bien. Ce matin, on va y aller dans un sujet, on ne peut plus média, le sexe.
Wow.
Oui. Mais on va y aller tout azimut et pire, on va commencer par la pornographie.
Excellent.
Alors voilà, il s'agit d'un petit essai d'abord et ensuite de ça, de quelques bandes dessinées. L'essai qui vient tout juste de sortir s'appelle « Porno Odyssey » en un mot. « Porno Odyssey » en fait. La préface est d'une travailleuse du sexe qui est Mélodie Nelson. Le livre est de Jean-Marc Beausoleil et c'est publié chez l'industrie, oh beau lapsus, chez l'éditeur Somme Toute. C'est sous-titré comme livre « Une saison dans l'industrie pornographique québécoise ». Précisons d'emblée que Jean-Marc Beausoleil, qui se décrit comme journaliste, enseigne aussi les médias et la littérature au niveau collégial. Ses livres, il y en a plusieurs qu'il a fait, puisqu'il travaille moins pour les médias que sur différents sujets qu'il passionne et sur lesquels il écrit une forme d'essai, de livre, avec lesquels il interview plusieurs personnes. Il en a fait un sur le cannabis avec M. Boris, qui était dans le groupe Grimmskunk, M. Boris et le cannabis, qui a publié chez Québec Amérique. Et récemment, en tout cas, on a parlé sur les ondes de CKUT au lendemain de la veille de son livre « Le chrome et le noir », également publié chez Somme Toute sur le graffiti. Un livre que j'avais éminemment apprécié. Ce livre-là, Pornodisé, m'a un peu plus laissé sur ma faim. Il faut dire d'emblée que ce livre-là a rien de glamour. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de dessin. C'est vraiment au ras des pâquerettes. Donc, on se contente ici d'interviewer des personnes, particulièrement des actrices, des acteurs qui sont ici appelés pour la nécessité de la chose, des performeurs ou des performeuses pour la question gymnaste, peut-être, on sait trop. Et ça vient aussi de l'anglais, c'est un dérivé, donc le mot. On parle aussi de personnes qui sont derrière la caméra. On parle aussi de personnes qui ont fait des études sur le sujet, dont une ex-performeuse qui est devenue doctorante et qui, d'une certaine façon, a l'air de protéger un petit peu son domaine de recherche en prenant fait et cause pour la question de la pornographie. L'auteur lui-même, dans une brève page à la fin du livre, explique, en tout cas dévoile un pan de sa vie personnelle, un abus sexuel, qui expliquerait peut-être son intérêt personnel pour la pornographie, et il laisse au lecteur, à la lectrice, le soin de comprendre que peut-être que lui-même, suite à cette agression-là, aurait pu être un des protagonistes du livre, aurait donc pu verser lui-même dans une espèce de désorganisation ou d'intérêt à performer au niveau de la pornographie. C'est un livre, finalement, qui ouvre plusieurs portes, qui n'explique pas grand-chose. C'est un livre, finalement, qui, comme je dis, m'a laissé un peu sur ma faim. C'est un livre, en tout cas, qui a le mérite de lever légèrement le tapis ou les rideaux Trudeau sur un sujet qui est un sujet pourtant du quotidien, puisque la pornographie, je crois que dépendant des groupes d'âge, dépendant homme ou femme, c'est une consommation qui est astronomique, qui est hyperbolique, qui est hallucinante. Et là-dessus, les personnes qui font des études sur le sujet s'entendent guère sur les dommages collatéraux s'il y en avait. Donc, pour nous, disait, c'est un livre qui permet peut-être d'entrevoir le sujet et le bagout de Jean-Marc Beausoleil au niveau de l'écriture nous donne aussi un peu une forme de mise en perspective, bien que il y ait quand même l'attitude de journaliste à ne pas nécessairement aller à contrario de ces sujets. Alors voilà, c'est un livre donc peut-être à explorer. Maintenant, j'ai choisi d'autres livres qui vont sur le sujet de la sexualité et qui amènent peut-être d'autres éclairages ou peut-être encore un peu plus de troubles et d'émoi s'il en fallait. Le premier, la première bande dessinée s'intitule « Mauvais genre ». C'est publié chez Delcourt par une autrice qui se nomme Chloé Cruchaudet, une autrice que j'affectionne particulièrement pour des livres extrêmement denses, très littéraires et tout en étant à la fois des romans graphiques de haute teneur dans le sens où l'aspect elliptique, l'aspect graphique est vraiment étonnant. Elle parvient donc à entremêler à son meilleur l'aspect littéraire et l'aspect graphique pour en tirer la quintessence, si on peut dire. Le livre « Mauvais genre », elle l'a écrit d'après le roman « La garçonne et l'assassin ». Déjà, on a un sujet qui est désarçonnant. La garçonne, un garçon ou une fille, et l'assassin. Oh là, ça se gâte. C'est un livre donc qui a été écrit à l'origine par Fabrice Virgili et Daniel Voldemann. Dès la page couverture, on voit un personnage de dos qui est en train de se faire agrafer un soutien-gorge par visiblement une femme qu'on voit face à ce personnage. Il s'avère que le personnage est justement cette garçonne, c'est-à-dire donc non pas nécessairement un transgenre, mais une personne, un garçon, qui a décidé pour des fins de désertion de l'armée de passer pour une femme dans le Paris des années... c'est la Première Guerre mondiale, en fait. Alors voilà, donc, afin de rester caché dans une chambre d'hôtel avec sa concubine, il décide donc de changer d'identité et il se fera appeler désormais Suzanne. Alors, on est dans la confusion des genres, traumatiste de la guerre et aussi dans un destin de couple qui va connaître définitivement certaines tribulations ou certaines turbulences pour le moins. C'est inspiré de faits réels, en plus que ce livre, qui serait l'étonnante histoire de Louise et de son mari travesti qui se sont aimés et déchirés dans le Paris des années folles. Très, très beau livre, un livre dans les gris, les rouges, les bleutés, un livre très sombre, mais en même temps, un livre qui amène un certain humour dans des pointes de désespoir et des basculements sans nom. Donc, un livre que je recommande au plus haut point, un livre vraiment intéressant pour aborder des questions de genre, mais aussi des questions de regard social, puisque ça joue aussi à travers toute cette identité, puisque on s'identifie par rapport aussi au regard qu'on va avoir de soi, qu'on va recevoir de soi, que dis-je. Donc, « Mauvais genre » de Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt. Un autre livre extrêmement troublant, « Confession d'un puceau », c'est publié publié chez un micro-éditeur français qui s'appelle ARG. Oui, un onomatopée. 3A, 1R, 1G et un point d'exclamation. Sur la page couverture, on a un personnage avec un paletot et qui remonte le col de façon à ne pas trop paraître au public ou à des gens qui pourraient circuler. Et dans son dos, on a le titre de l'album « Confession » au pluriel d'un puceau. L'auteur se trouve à être Dan Guedin. Et Dan Guedin a un frère avec lequel il a commis plusieurs albums underground. Au dos de couverture, on voit une petite culotte accrochée sur une corde à linge et il y a une écriture sur la culotte. C'est écrit « Ça reste entre nous, hein? » Et la culotte est évidemment un peu mouillée, quoi. Alors, ce livre se trouve à être en noir et blanc pur. On est dans du dessin définitivement underground, pratiquement halluciné. On va parler donc de fantasmes sexuels masculins, voire peut-être de personnification ou de pinicification, si on pourrait employer ce néologisme, puisque l'auteur va dessiner un pénis qui semble avoir une vie propre. Alors, on est dans des fantasmes masculins qui apparemment sont relativement courants. Et ici, on est dans les prémices, dans l'enfance, dans l'éveil, les premiers émois sexuels, mais aussi dans les développements des premières relations à l'école, ici aussi au lycée. Et disons que c'est pour le moins turbulent, voire hardcore, ou encore tout simplement débosant, dans le sens où entre justement la pornographie que des jeunes vont consommer et la réalité de l'idée donc de l'orgasme multiple, du truc finalement qui ne finit plus et qui est en parfaite extase, on est loin de la coupe aux lèvres, si on peut dire. Alors voilà, c'est assez solide comme livre et c'est un livre qui a le mérite d'être assez authentique. On voit très bien que ce ne sont pas des trucs inventés, on n'est pas dans la fiction, on est un peu dans un journal de l'enfance et de l'adolescence. Donc, Confession d'un puceau par Dave Guedin, publié chez ARG. Dans un autre registre, on peut dire souvent que les pastiches, les détournements de personnages ou d'œuvres pour en rigoler amènent souvent des éléments à caractère sexuel. J'ai un livre entre les mains qui s'appelle « Imposture au pluriel » qui est publié chez Fluide Glacial par un auteur qui s'appelle Romain Dutrix. Sur la page couverture, on voit différents personnages bien connus de la bande dessinée franco-belge, Astérix, le Gaulois et son comparse Obélix, Fantasio Spirou, Lucky Luke ou encore les Schtroumpfs. Étonnamment, Romain Dutrix ne s'attaque pas tant que ça au sujet de sexualité, sauf dans un cas, celui des Schtroumpfs. Et pour ce faire, il prend un film comment s'appelle ce réalisateur suédois? Peut-être Tamara, tu vas pouvoir venir à mon secours.
Non, malheureusement, je pense pas, là, mais j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans le livre.
C'est Ingmar Bergman. Voilà.
Ah, OK. Wow.
Une sommité du cinéma suédois, un cinéma qui est lourd, dans lequel les relations interpersonnelles sont tendues, sont lancinantes. On a toujours l'impression qu'on va virer le couteau dans la plaie.
Alors, je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, parce que je pensais que je trouve.
pourtant, c'est ça, on est allé donc à l'opposé de cette imposture. on a mis justement un schtroumpf avec sa femme, qui est une humanoïde pure, dans un huis clos, dans une scène de cuisine, dans lequel la femme joue une espèce de diagonale inversée avec le style cinématographique Ingmar Bergman et l'incompréhension totale qui mine ce couple-là. Donc, c'est un clin d'œil à une certaine fluidité dans les communications qui est peut-être un préalable à la relation sexuelle, peut-être, que sais-je. Alors, voilà. Et pour s'achever, très rapidement, un livre dont on a déjà parlé et qui on se demandera, mais pourquoi Sacré Ramon Vitesse va nous faire un parallèle avec, parce que je le rappelle, on est quand même parti de la pornographie. Je voulais juste réattirer l'attention de nos auditeurs, auditrices sur le livre « Les règles, trois petits points, quelle aventure, point d'exclamation », publié aux éditions Remus Ménage par Élise Thiébault et Myrion Mal. Pourquoi attirer l'attention sur ce livre? C'est que quand on lit ce livre, et moi ça m'a jeté à terre, c'est qu'il y a tellement de choses, par exemple sur la connaissance du corps féminin au niveau des règles, entre autres, qui sont parfaitement inconnues, alors qu'à l'opposé, au niveau de la pornographie, on est quasiment sur le plan du microscope et sur le plan de quelque chose qui apparemment est éculé et est usé et qu'on en sait tout puisqu'on nous montre tout et on nous en montre une profusion telle qu'il y en a partout. Bref, je trouve intéressant de ramener qu'il existe encore des tabous et que ces tabous sont vernaculaires et persistent encore malgré une apparente débauche et une apparente luxure. Et ça, ça demeure encore à expliquer, à comprendre, et surtout, ça nécessite certaines curiosités qui dépassent les apparences que la pornographie peut peut-être laisser comme arrière. Alors voilà pour ce côté. Toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM, Tamara et moi vous invitons à écouter Robert Fusil et les chiens fous avec une pièce clin d'œil d'un émoustillement de jeunes adolescents face à un couple qui joue de la guitare tout nu avec une strap qui a été volée dans un magasin de musique. Rien de moins.
Génial, génial. J'ai hâte d'entendre ça. Merci, Ramon.
Eh bien, voilà.
Comme une grande prison. savon. Mais combien d'amis t'as bien eu pour mieux rêver dans sa cellule? Pendant que j'y serais le gars, toi tu la sors un coup de caramel. Gros qui fait sel, sous sifflement des mitraillettes, vol la BM, Tisco en jet, une prise de nage à l'ancienne, une vue classique américaine, pour s'en aller sur un nuage que me répète Bonnie and Clyde.
L'entretien qui va suivre pourrait surprendre nos auditrices et auditeurs parce que les propos tranchent avec les autres épisodes de 20%. Comme on le sait, toutes les femmes scientifiques ne sont pas unanimes et ce balado mise sur le dialogue et l'écoute pour faire évoluer la place des femmes en sciences.
Connaissez une femme scientifique?
À part Marie Curie, non.
Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie?
Non, malheureusement, non, je pense pas, non.
Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique?
Non.
C'est pas étonnant. Les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elles représentent 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. Et en sciences, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent. Et dans ce balado, elles se livrent à nous. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici Karine Mona, vous écoutez 20%.
Rebelle, anticonformiste, citoyenne du monde. Quelqu'un qui est très fier de ses racines culturelles indiennes ainsi que ses racines scientifiques russes. Avec un esprit can-do, tout est possible à l'américaine. Je suis plein de contradictions. Je suis présentement à la tête d'une compagnie composée de grands scientifiques, ingénieurs et créateurs. Sumitra Rajagopalan, fondatrice et PDG de BioAstra Technologies.
Soumitra Rajagopalan, vous êtes présidente et directrice générale de l'entreprise BioAstra Technologies que vous avez fondée en 2013 et vous fabriquez des matériaux dits intelligents à visée biomédicale. Donnez-nous des exemples de matériaux que vous concevez chez BioAstra.
Actuellement, on vient de mettre sur le marché des peaux artificielles qui ressemblent au vivant et qui s'auto-cicatrisent comme notre peau, qui est destinée aux hôpitaux et aux chirurgiens, aux infirmières pour former la relève. Pour former les médecins, les chirurgiens, ça prend des simulateurs, non pas des patients vivants dans un premier temps. Mais c'est un domaine qui a un manque cruel d'innovation. Donc ce mariage de matériaux intelligents et le monde de la simulation biomédicale, c'est là où on a trouvé notre niche dernièrement. Ça, c'est un exemple. Dans le même optique, des muscles artificiels pour une nouvelle génération, des robots qui ressemblent aux vivants. Ça, c'est un peu le fil conducteur de BioAstra. Des implants injectables qui passent de liquide dans un seringue à solide dans le corps pour relarguer des médicaments. On a des capteurs qui agissent comme notre peau pour capter l'information sur la force, la pression, le positionnement des fins médicales. J'ai lancé ma compagnie avec rien de moins que régler le problème des changements climatiques à travers des tissus et des surfaces qui peuvent refléter la chaleur sur la planète, mais notamment sur le corps humain. C'est le fruit de mes recherches universitaires sur les matériaux thermosensibles que j'avais entamées quand je suis arrivée au Canada. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais entre-temps, on a pu commercialiser cette partie de la technologie pour l'emballage intelligent, pour garder les vaccins et les médicaments froids dans les pays chauds.
Et vous me parliez aussi d'une vitre, je crois.
Oui, ça on l'a conçu au lab, mais on n'a pas trouvé de marché parce qu'il y a un concurrent sur le marché qui est assez solide, qu'on a un peu de peine à déloger. Mais on a néanmoins trouvé notre niche dans le domaine de la simulation biomédicale pour reproduire justement des changements de couleur de peau qui peut être la première signe de quelque chose de gravement malade, notamment la cyanose des lèvres et puis des hématomes de la peau. Donc là, on a eu, on va dire, un échec dans le domaine de l'architecture qui était un peu l'application classique des matériaux qui changent de couleur. On a trouvé, on va dire, un grand succès ailleurs.
Et alors, comment on définit un matériau intelligent ?
Ça dépend des personnes, mais à BioAstra, un matériau intelligent est un matériau qui a un certain réflexe. C'est-à-dire, il est sensible à certains changements environnementaux. Et puis, il change ses propriétés en fonction de ce changement environnemental. Ça peut être, par exemple, un vide qui change de couleur quand il fait chaud. Ça peut être un hydrogel qui change de taille pour relarguer un médicament quand il se retrouve dans des milieux acidiques de l'estomac. En fait, on s'inspire beaucoup du vivant pour amener de plus en plus de fonctionnalités au matériau.
Est-ce qu'en somme, on peut dire que c'est un matériau qui passe d'un état à l'autre ?
Exactement, et que c'est réversible.
Et d'où vous est venue cette idée de travailler avec des matériaux intelligents ?
Le début de cette aventure a commencé à Saint-Pétersbourg, en Russie, juste après l'éclatement de l'Union soviétique. C'était en 92, et puis c'était un nouveau pays, et puis une femme qui a fait ce passage d'enfant vers jeune femme. Et malgré tous les bouleversements et puis la conjoncture politique de l'époque, j'ai eu la grande chance d'étudier là où nul d'autre que Dmitri Mendeleïev a conçu le début de ce qui est devenu le tableau périodique, qui est couramment utilisé par tout le monde qui apprend la chimie aujourd'hui. Et j'ai adoré justement l'approche systémique de la chimie à travers le tableau périodique, qui fait partie de la grande héritage russe en chimie. Mais c'est un cours de professeur Alexandre Biliben sur les macromolécules où il a évoqué la notion des matériaux intelligents qui a fait en sorte que j'ai eu mon coup de foudre. Le cours était entièrement en russe, mais il est juste sorti de... il a juste évoqué le mot « smart materials » en anglais en me regardant. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il voulait juste parler qu'à moi. Je suis allée vers lui pendant la pause pour dire effectivement, c'est ça qui me passionne et je veux travailler là-dessus. Je suis emballée par ce que vous venez de dire.
Et dans le podcast 20%, on veut mettre de l'avant les femmes, vous le savez, et les femmes scientifiques pour montrer qu'on peut aller plus loin en s'identifiant à différents modèles. Mais vous, vous dites que vous êtes une scientifique
point, si je puis dire, pas une femme scientifique. Alors pourquoi ? J'aimerais vous entendre là-dessus.
Vous voulez la réponse diplomatique ou...
Ah, la vôtre, moi, oula, c'est celle qui vous ressemble.
Oh, je peux pas vous expliquer à quel point ça m'énerve, cette étiquette de femme scientifique. Et puis toute cette théorie derrière comme quoi on n'a pas notre place, il y a les gars qui nous laissent pas, on doit s'affirmer, on doit travailler 4 fois plus ou même 15 000 fois plus. Écoutez, c'est une question de personnalité. Moi, je connais pas un domaine aussi inclusif, aussi accueillant que la science. C'est justement un domaine où on mène avec nos idées. Et c'est justement la différence qui fait qu'on arrive à se distinguer. En fait, la découverte scientifique est définie par justement la personne qui voit la même chose d'une façon différente. Sinon, il n'y a pas de découverte. Il n'y a même pas un papier publié si on répète exactement la même chose.
Oui, il faut que la découverte soit vue par plusieurs personnes, chacune différente, pour qu'elle soit validée dans le fond.
Vous avez raison. Ensuite, ça doit être validé par les pairs, c'est sûr. Vous avez bien raison. Mais au départ, le processus de découverte, ça sous-entend qu'on est différent ou du moins on voit la même chose, on voit ce que les autres voient, mais avec un regard différent. Donc c'était un domaine qui a été bâti par des rebelles, par des non-conformistes. Donc par définition, notre apparence physique, le fait qu'on soit homme ou femme, ne devrait pas avoir une différence. Maintenant, historiquement, je comprends que les femmes, certaines minorités, ont été exclues des institutions scientifiques, qui est différent de la science. Mm-hmm. Et ça, désolé, c'est plus un héritage européen ou nord-américain. L'université de Kaboul, dans les années 50, 60, 70, accueillait des femmes en même temps où il y avait une restriction sur les juifs en Amérique du Nord et l'Europe. Donc oui, il y a cet héritage des pays riches, on va dire, mais néanmoins, la science, si on sort de l'institutionnalisation des sciences, ça reste quelque chose pour tout le monde. Donc là, je comprends pas ce discours. Je suis contente d'être là, mais je comprends même pas la raison d'être de ce podcast-là, parce que sans choquer qui que ce soit, j'adore les hommes, j'adore l'énergie masculine autour de cet domaine néanmoins. Et moi, j'ai appris tellement de ces hommes qui sont prêts à prendre des risques en science et en entrepreneuriat technologique, de ne pas avoir peur de se faire ridiculiser dans la quête de leurs idées. Parce que chaque super idée aujourd'hui qui est un produit, au départ, était une idée qui a été ridiculisée. Le tableau périodique a commencé avec une idée ridicule. Comprenez-vous ? Alors, il y a une chose qu'on doit surmonter en tant que femme, ça n'a rien à voir avec les institutions et ni les hommes, c'est avoir cette capacité d'échouer et ne pas avoir peur de se faire ridiculiser.
Donc ça serait un atout pour passer au travers. En effet, qu'on soit une femme ou qui que ce soit d'ailleurs, doit bien avoir des hommes qui ont moins le goût du risque aussi, ou des femmes qui ont plus le goût du risque, ou qui sont plus à même à accepter d'être ridiculisées, mettons. Mais ma question, vous l'avez dit vous-même, c'est que c'est un héritage culturel. Le podcast, il s'appelle 20%, c'est parce que c'est les vrais chiffres, comme vous le dites, en Occident, particulièrement au Québec et au Canada, on est à 20% de femmes chercheuses. Donc, en ça, c'est de dire que justement, les institutions ont un problème, que ce soit un héritage culturel ou autre, qui fait qu'on est moins nombreuses en tant que femmes, alors que, vous l'avez dit, de base, à faire de la science, on est tout à fait capable, on est aussi capable qu'un homme. Donc, moi, c'est plus en ça où je me dis que c'est important de montrer que c'est possible. Philosophiquement, on va être d'accord, c'est possible, mais concrètement, à tous les jours, il y a des femmes qui sont empêchées juste parce qu'elles sont femmes.
Donc, par qui ?
Eh bien, c'est ça la question. Et c'est l'éternel absence de réponse, parce que c'est jamais clair. On ne dit jamais « parce que t'es une femme, t'as pas le poste ». Mais en attendant, on tombe à 20% quand même, alors qu'aux études supérieures, en biologie par exemple, on est 80%. Donc, quand bien même, ça sera un obstacle...
Parce qu'il y a moins de maths en biologie, est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y a beaucoup moins de maths en biologie qu'en génie électrique. Moi, j'aimerais vous sortir d'autres chiffres. Vous parlez de 20%.
Oui.
Mais ce chiffre est beaucoup plus bas dans des pays scandinaves où les femmes sont censées avoir toutes les libertés au monde, et beaucoup plus élevé à Cuba, en Corée du Nord.
En Birmanie,
au Maroc,
on atteint les 86%.
Vous comprenez là où je vais... En Iran, est-ce que moi ou toi, est-ce qu'on aimerait, s'il fallait choisir, être une femme en Iran aujourd'hui ? Et pourtant, on parle de 60%, 70%, et on les voit à Montréal, on les voit en Amérique du Nord. Alors, j'aimerais que quelqu'un m'explique ça. En absence d'une théorie, on va dire, cohérente, je m'avance avec la mienne qui est peut-être incohérente, qui est quand on donne un véritable choix, peut-être dans des pays prospère ou riche, où les femmes n'ont pas besoin de souffrir pour arriver au sommet, est-ce qu'on choisit la voie un peu plus facile? Parce que l'entrepreneuriat, la technologie, la science sont des métiers durs, croyez-moi. Le mat est dur, il n'y a rien à faire. Peut-être si on peut avoir le même niveau de confort, le même salaire, sans passer par ces métiers-là, pourquoi pas? Tandis que nos sœurs en Iran, en Inde et ailleurs n'ont pas ce luxe. Donc il faut aller vers des métiers payants, que ce soit l'ingénierie chimique ou travailler dans le secteur pétrolier comme ils font en Iran.
Donc, Et si maintenant on pense à des femmes qui aimeraient vraiment aller en sciences et qui sont d'ailleurs en sciences, qui cherchent à poursuivre, mais qui ont des obstacles pour arriver justement à un poste de professeur, mettons, elles ont décidé d'avoir des enfants, elles sont comparées par le système d'octroi des bourses à une femme sans enfant ou à un homme sans enfant. Donc de fait, à l'instant T, elles ont moins produit que la personne qui n'a pas d'enfant, par exemple. Donc elle va être discriminée malgré elle parce qu'elle a choisi d'avoir des enfants. Donc ça, c'est un réel obstacle qui est palpable, là, pour le coup.
Si vous le dites, je connais beaucoup d'exemples de femmes avec des enfants. Je pensais à Victoria Caspi, qui est la grande astrophysicienne avec combien d'enfants? 4 enfants. À McGill, et c'est une sommité en astrophysique mondialement reconnue. Lisa Randall à Harvard, c'est la physicienne théoricienne la plus citée au monde actuellement, et pas juste aujourd'hui, c'est depuis 15 ans, je pense que personne ne l'a dépassée. Elle aussi, elle a des enfants. Donc pour chaque règle, il y a des exceptions. Si eux, ils arrivent, c'est la passion et les compétences, et peut-être ce goût de risque qui fait en sorte que malgré ces obstacles, elles arrivent. Foncez, c'est tout. Comptez pas sur un système. Comptez pas sur l'entourage de vous offrir la voie pour arriver. Chacun doit creuser sa propre voie. Il faut de toute manière aller hors des sentiers battus. Il n'y a pas un chemin prêt, ni pour moi, ni pour vous, ni pour les hommes d'ailleurs. On doit tous bâtir notre... Il ne faut pas passer une minute là-dessus et passer à faire la vraie science. Voilà.
Et est-ce que, malgré tout, vous avez réalisé, en tant que scientifique d'une part, puis maintenant en tant que femme d'affaires, que vous étiez une minorité parmi les hommes, ou c'est
ça
pas quelque chose que
j'adore
vous...
J'adore ça. Je suis tellement biaisée, donc désolée. J'adore d'être dans ce milieu entouré par des hommes. J'adore l'énergie masculine, et puis j'en ai profité pour prendre cette énergie pour faire quelque chose de beau. Donc, je suis pas la personne super objective là-dedans.
Non, mais tant mieux, on cherche pas l'objectivité, on cherche des parcours de vie.
Oui, c'est un constat. Et alors ? Franchement, quand des femmes se plaignent qu'ils sont dans un milieu avec des gars super créatifs, innovants, intelligents, c'est pas un travail de vos rêves, finalement. Donc, c'est pour ça que je comprends pas ce discours-là. Je suis sur une autre planète, désolée.
C'est pas tant de se plaindre d'être avec des gars que d'être dans un monde peut-être pas assez diversifié, que ça soit des gars, des personnes en fauteuil roulant, des personnes trans, des personnes femmes, des personnes d'ailleurs, que notre pays d'origine à nous. C'est plus la diversité que... C'est pas du tout anti-homme, vraiment pas d'ailleurs.
Vous avez soulevé quelque chose de très important. Maintenant, pour des gens avec des besoins spéciaux, on a du chemin à faire, absolument. Moi, j'ai un fils qui est daltonien et je vois déjà des problèmes à venir dans ses cours de chimie où il faut faire une distinction de pH. Et puis, ça exclut pas mal de domaines dans l'avenir, comme être pilote et astronaute, qui est le rêve de chaque garçon. Écoutez, j'aimerais que ça soit à l'écart de problèmes de femmes. Des besoins spéciaux, absolument. J'aimerais un autre podcast là-dessus. Non, mais bien mérité, sérieusement. La partie qui me réjouit néanmoins, parlons de la neurodiversité. Ça reste le domaine où les gens qui sont sur le spectre autiste, qui voient les choses différemment, qui sont même schizophréniques, ils ont trouvé historiquement leur place en science, parce que justement, ce qui les rend peut-être malheureux ou ce qui rend leur quotidien difficile dans certains cas, peuvent être également des atouts en science. Et on connaît des personnages historiques, hein, des grands scientifiques qu'on aime et qu'on admire, qui ont eu des maladies mentales. Mais j'aimerais que les sciences et technologies de l'entrepreneuriat soient encore plus accueillants. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on le sait, j'en fais partie, on est quoi, entre 60 et 70% des entrepreneurs qui ont du TDAH aussi, et qui fait que ce qui a rendu notre quotidien dans le monde académique épouvantable, comme c'est dans mon cas. Donc, si on veut parler de la diversité, on ne va pas se limiter à ce discours binaire de hommes et femmes. Et je suis vraiment contente que vous avez évoqué quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'inquiète beaucoup, qu'on peut être beaucoup plus accueillant envers les gens qui ont des besoins spéciaux, mais qui ont leur place en science aussi.
Et justement, quand vous dites besoins spéciaux, si là, je reviens aux femmes, mais attention, c'est vraiment des généralités à gros traits, là, mais vous disiez prise de risque pour les hommes, peut-être que justement, un besoin spécial des femmes, ça serait de prendre moins de risques, admettons, d'être un peu plus sécurisée. Alors attention, j'y vais vraiment avec des clichés, mais est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas considérer que c'est un besoin spécial qui aurait sa place en science aussi?
Très intéressant, je ne l'ai pas vu de cette façon-là. Malheureusement, dans notre domaine, on a ce truc de « the winner takes all », ok? C'est-à-dire, c'est une culture de monopole. Il y a un seul Google, un seul Facebook, un seul Amazon, un seul Apple. Comprenez, malheureusement, on ne peut pas parler d'équité dans notre domaine. J'aimerais bien parler...
Dans le privé, vous voulez dire.
Moi, j'aimerais... on crée des produits inclusifs. On a une version, par exemple, pour une école de soins infirmières dans un village indien que pour un hôpital à Harvard. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le milieu académique, malheureusement, surtout dans le contexte nord-américain, est basé sur le système des stars, des vedettes, qui fait qu'il y a un prof ou deux profs qui va aller chercher des dizaines de millions en financement sur des années, et c'est lui qui est au sommet. Et comme le bassin de l'argent public est tellement limité, on voit des profs qui ont leur part démesurée. Et oui, c'est principalement des hommes, mais il y a des femmes là-dedans. Donc, je suis d'accord avec vous dans la mesure où, sans parler de hommes-femmes, peut-être rendre le domaine un peu plus inclusif. Ça ne devrait pas être un système juste pour les vedettes, mais pour juste des bons chercheurs et des bons enseignants. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Si vous aviez été un homme, Soumitra.
Apparemment, j'y suis. Déjà fait, suivante, oui.
J'allais dire comment ça aurait été différent.
Pas de jupe, pas de bébé qui sort. Et le reste, je pense que je serais exactement la même.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, même si c'est ça, on peut avoir un discours différent. Mais merci.
Diversité d'opinion. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir.
C'était 20%, une coproduction du magazine Québec Science et l'ACFAS, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Commission canadienne pour l'UNESCO et L'Oréal Canada. Réalisation, recherche et montage, Karine Mona. Prise de son, Olivier Germain. Musique et mixage, David Lavaisse. Rédaction en chef, Marie-Lambert Chan. Et cet épisode est enregistré dans les studios Prime à Montréal. Et on remercie aussi la coop Bande à part pour leur accueil. Vous aimez 20%? Dites-le nous sur Apple Podcasts. Avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Tous les épisodes sont aussi disponibles à l'écoute ou en téléchargement sur SoundCloud et votre application d'écoute de balado préférée.
wants to stay. Started here on every day. And everyone who wants to go, the lights are out and there's no one home. And everybody always says the days go on and they never end. And everywhere it seems there's something stuck there, stuck there, yeah.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies.
The long-awaited extradition hearing for WikiLeaks founder Julian Assange has begun in London. He faces a possible life sentence if he's sent to the United States. We'll speak to his attorney, Jen Robinson, just outside the London courthouse.
This sets a dangerous precedent for all media organizations and journalists in Europe and elsewhere around the world. This precedent means that any journalist can be extradited for prosecution in the United States for having published truthful information about the United States.
Then we look at how decades of U.S. military intervention in Central America has led to the ongoing migrant crisis. We'll speak with Salvadoran American journalist Roberto Lovato, author of the new book, Unforgetting, a memoir of family, migration, gangs, and revolution in the Americas.
Unforgetting is also about an underworld journey, my journey across the cities, forests, and deserts of the 2,500-mile chain of forgotten, dead, and devalued life that begins in El Salvador, where I visit mass graves, morgues, and hideouts where gangs and governments have killed, dismembered, and disappeared their victims for decades.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. In California, three firefighters are fighting for their lives after a massive fire overtook their station at the Los Padres National Forest overnight. They were among 14 firefighters who deployed emergency shelters as flames overtook their position. The massive Dolan fire is just one of more than 85 raging across the West Coast, with red flag warnings from San Diego to the Canadian border in Washington state. Fires this year have burned more than 2 million acres across California, even before the start of September and October, historically California's worst months for fire. Governor Gavin Newsom said Tuesday his state needs to adapt to the realities of the climate crisis.
But I quite literally have no patience for climate change deniers. It simply follows completely inconsistent, that point of view, with the reality on the ground, the facts as we are experiencing. You may not believe it intellectually, but your own eyes, your own experiences tell a different story.
The confirmed U.S. death toll from COVID-19 is approaching 190,000. This comes as new evidence shows the death rate among African Americans and Latinos rose sharply during the summer. The percentage of African Americans killed by the virus is more than twice as high as white Americans. Meanwhile, a new study estimates more than 250,000 cases of COVID-19 may be linked to a motorcycle rally that brought hundreds of thousands of people to Sturgis, South Dakota last month. This would make it the largest super-spreading event